représente aujourd'hui à notre conférencier, Alain Touraine. Il est né en 1925. Son statut, c'est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je retrace brièvement sa carrière. Il a été élève de l'École normale supérieure. Il est agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Je me souviens même avoir, jeune étudiant, et assisté à la soutenance de sa thèse. Il a commencé sa carrière puis chargé de recherche au CNRS. Il a beaucoup travaillé en Amérique latine, notamment au Chili. Il est devenu, dans les années 50, 58, 60, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Puis, dans les années chaudes, 66, 69, il a été professeur de sociologie à la faculté des lettres de Paris-Nanterre. Il est, parmi ses nombreuses activités, il est le fondateur du laboratoire de sociologie industrielle, qui est devenu ensuite centre d'études des mouvements sociaux. Et en 81, il a fondé, pour le diriger, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Sa spécialité, c'est la sociologie, bien sûr, mais c'est surtout et la sociologie et l'économie du travail. J'échangé quelques mots avec lui juste au début, parce que je me souvenais qu'il avait pour de bon, en tant que jeune intellectuel, été voir sur place ce qu'il en était, puisqu'il a travaillé entre 1947 et 1948 dans les mines, et entre 1948 et 1949, il a été, mais cette fois-ci comme sociologue, à la régie Renault. Et ses travaux sur le travail, ses recherches sur le travail ouvrier et les changements du travail ouvrier sont tout à fait importantes. Je cite ses ouvrages les plus récents, parce qu'il y en a beaucoup. Critique de la modernité, qui est paru chez Fayard en 1992. Qu'est-ce que la démocratie, Garnier-Flammarion, en 1997. Qu'est-ce que le libéralisme, 1999, chez Fayard. Pourrons-nous vivre ensemble, qui a été réédité en 1989. Et enfin, la réédition toute récente, justement, de sa thèse, Sociologie de l'action, en février 2000. Je lui laisse la parole pour 50 minutes et suivi de une vingtaine de minutes de questions. Merci.
Mesdames et messieurs, ce n'est sûrement pas un hasard, comme vient de le rappeler Yves Michaud, si l'Université de tous les savoirs vous invite en ce 1er mai, fête du travail, à réfléchir sur le passé et l'avenir de celui-ci, donc sur la signification et l'importance du travail dans notre société telle qu'elle a été pendant longtemps connue, telle aussi qu'elle se transforme très rapidement sous nos yeux. Vous savez que le 1er mai a été d'abord la célébration d'une action syndicale menée à l'échelle mondiale et destinée à obtenir la journée de 8 heures. Cette initiative est partie des États-Unis dans un climat d'affrontements sociaux très vif, en particulier dans les chemins de fer, et qui a conduit progressivement les gouvernements et plus tard l'Organisation internationale du travail à limiter la durée du travail. Manifestation syndicale à l'époque où le syndicalisme était encore dans une large mesure ce qu'on appelait un syndicalisme révolutionnaire, il vaut mieux dire un syndicalisme d'action directe, et qui a montré la force de pression du syndicalisme sur les centres de décision politique. Mais l'importance historique de cette journée pourrait aussi entretenir l'idée que ces commémorations, comme l'action ouvrière et comme l'idée de travail elle-même, si importante dans les sociétés qu'on appelait avant tout des sociétés industrielles, appartiennent plus au passé qu'à l'avenir. Nous savons bien que ce 1er mai, fête du travail, est surtout un jour sans travail, on dirait presque la fête du printemps, la fête du muguet. On peut ajouter que le travail n'apparaît plus en général comme le lieu central de notre société, même si en fait personne ne conteste son caractère indispensable et sa présence massive, aussi bien dans les sociétés que dans les vies industrielles. Mais on parle moins de travail, très peu des travailleurs, encore moins de classe ouvrière, car la population active s'est diversifiée et la part qu'occupe le monde ouvrier proprement dit, qui n'a jamais été majoritaire, a reculé très fortement et est destinée à diminuer encore. Le monde ouvrier, comme avant lui Le monde de l'agriculture, même si c'est à un degré moindre, apparaît comme un secteur en recul, alors que la masse bigarrée de ce qu'on appelle les services occupe déjà les deux tiers de la population active et contribue dans une proportion encore plus forte à la formation du produit national. Ceci a mené quelques-uns à tenir des discours extrêmes et qui ont eu un succès certain, en particulier par le talent de ceux qui exprimaient ces idées, en partie aussi par le sentiment assez diffus que nous vivons ce qu'on peut nommer sans trop de précision la fin du travail, c'est-à-dire la fin d'une société, d'une civilisation, d'une morale du travail, comme si le travail entrait désormais dans le monde des instruments, des machines et des calculs, alors que la personnalité individuelle, comme la vie collective, se détachait de cette réalité du travail. Beaucoup l'ont dit, notre société est moins une société de production que de consommation et de communication, et le développement de secteurs nouveaux d'activité a amené beaucoup de gens, de bonne foi, à penser que la production et donc le travail occupaient une place de moins en moins importante dans nos sociétés et surtout dans notre avenir. Si j'ai évoqué ces thèmes qui ont retenu l'attention de beaucoup au cours des dernières années, c'est pour définir dès le départ le but que je me fixe dans cette conférence. Je veux essayer de vous montrer que l'idée de fin du travail n'a aucun fondement, ni dans la réalité objective de l'économie, ni dans la conscience, les attitudes et les pratiques de ceux qui travaillent comme de ceux qui n'ont pas de travail. On peut donc trouver un but polémique dans mon propos, mais ce n'est évidemment pas sur un ton polémique que je veux m'exprimer. Commençons par décrire rapidement la situation actuelle du travail. Le fait le plus frappant, le moins discutable, n'est pas que le travail gagne ou perde de l'importance, c'est que nous vivons dans une société dont une partie importante des membres vivent soit dans la précarité et la pauvreté, soit dans le non-travail, ces deux catégories évidemment se recouvrant largement. Dans le cas de la France, qui n'est nullement extrême en Europe, le nombre de ces habitants qui vivent dans la précarité de l'emploi et la pauvreté est évalué de 12 à 13 millions. C'est-à-dire que la situation de précarité et de pauvreté concerne 20% de la population. Si nous regardons plus directement l'emploi, on s'étonne à prendre connaissance des chiffres proposés par les statisticiens et en particulier par ceux de l'Union européenne à Bruxelles. Il y a quelques années encore, avant qu'on atteigne le point le plus bas, il parlait pour l'ensemble de l'Union européenne de 50% de personnes pouvant travailler et étant en situation de non-travail. En ce qui concerne la France, un chiffre est certainement très au-dessus de la réalité. Mais on peut penser que 30 à 35% des habitants de la France et qui sont en situation de travailler ne travaillent pas. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais énumérons rapidement pour justifier un tel chiffre des catégories. Il y a évidemment d'abord les chercheurs inscrits, les chômeurs. Parfait. Il y a quand même des chercheurs qui travaillent le 1er mai. En plus des chômeurs déclarés et inscrits, il y a les nombreux jeunes qui ont des stages ou des petits boulots qui n'aboutissent pas à un emploi. Il y a aussi environ 500 000 d'étudiants qui assurent une croissance de l'université bien au-dessus de ce qu'elle a été régulièrement, parce que ces étudiants et leurs familles sont convaincus qu'on trouve plus de travail ou plus facilement de travail à bac plus 5 ou 6 qu'à bac plus 2 ou 3. Une troisième catégorie très importante en France, car la France est un pays, est le pays où la proportion la plus basse en Europe arrive en travaillant à l'âge légal de fin du travail. ni la moitié des hommes, ni encore moins la moitié des femmes, n'arrivent à l'âge légal de la retraite en travaillant. J'ajoute enfin que dans beaucoup de pays, surtout les pays méditerranéens, mais aussi la France, les femmes de 45 à 50 ans et plus ne se font plus inscrire sur les listes de l'ANPE ou de l'équivalent dans d'autres pays, tellement elles sont certaines de ne pas trouver d'emploi, jugement qui malheureusement correspond en général à la réalité. Vous voyez donc que ce à quoi nous assistons n'est pas en premier lieu une perte d'importance ou de signification du travail, c'est d'abord un recul matériel du travail. Nos sociétés sont incapables de fournir du travail à ceux qui souhaitent en avoir pour disposer de revenus indépendants. Il est inutile que j'ajoute ce que nous savons tous, à savoir que la grande majorité des embauches au cours des dernières années, environ 80%, a correspondu à des embauches à durée limitée ou à temps partiel, non choisi, de sorte que 20% seulement des nouvelles embauches a correspondu à des emplois à durée indéterminée et à temps plein. Mais il faut aller plus loin. Nous avons le sentiment, que je crois fondé, de vivre moins dans une société de production que dans une société de marché. Évoquons d'abord deux ou trois aspects de cette vision générale. Le premier de ces aspects, c'est que la pyramide des salaires, dans laquelle entrait la plus grande partie de la population active, a été remplacée aujourd'hui par la séparation de trois grandes catégories économiques superposées. D'abord, en effet, tous ceux qui appartiennent en haut ou en bas au monde salarial, donc à la pyramide des salaires. En deuxième lieu, la masse importante de ceux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ceux qui sont hors travail. Et au-dessus de la pyramide des salaires, la masse de plus en plus importante de ceux qui ne se placent plus dans cette pyramide, mais au-dessus d'elle, qui sont rémunérés en fonction de leur relation au marché, plutôt que de leur niveau de qualification ou de responsabilité dans une entreprise. Ce mot d'entreprise m'amène à saisir un autre aspect tout aussi important de la transformation d'une société de production en société de marché. Dans un livre célèbre, Robert Reich, ancien ministre du Travail du président Clinton pendant sa première présidence, a montré que les entreprises tendaient à se réduire du fait de la multiplication des sous-traitants et aussi de la création de réseaux, de networks, dont les éléments tendent à disposer d'une autonomie de plus en plus grande. Reich a employé une expression un peu bizarre, de manipulateurs de symboles pour désigner ceux qui restent au cœur de l'entreprise, qui sont avant tout des financiers, mais aussi des professionnels, des juristes, des technologues, des économistes, des actuaires, des médecins ou juristes du travail. Autrement dit, l'entreprise occupe une place évidemment centrale, mais plus réduite en taille qu'avant, entre le monde des technologies d'un côté et le monde des marchés de l'autre. Alors qu'il y a 30 ans, même 20 ans, à l'époque où les idées de John Galbraith sur la technostructure, qui avait été précédée avant la guerre par un livre célèbre de Burley et Means, étaient généralement acceptées, c'est-à-dire que l'on disait que c'était les dirigeants, les managers, les exécutifs des entreprises qui avaient éliminé les propriétaires, on voit un mouvement inverse se réaliser aujourd'hui. Ce que les Américains, puis les Anglais ont appelé « governance » et que nous commençons à appeler la gouvernance des entreprises, veut dire très concrètement le retour au pouvoir des actionnaires qui imposent leur choix aux dirigeants d'entreprise. Alors que, tout près de nous, des exemples célèbres, d'abord IBM ou Kodak, et puis surtout les entreprises, les grandes entreprises japonaises, avait insisté sur l'importance de l'intégration dans l'entreprise, qu'on a pu appeler le modèle Toyota, nous voyons aujourd'hui se développer rapidement une évolution inverse. La priorité est donnée à la définition de centres de production responsables sur le marché de leurs gains et de la progression de ses gains. Les actionnaires organisés, en particulier à travers les fameux fonds de pension, surtout nord-américains, ces investissements étrangers, vous le savez, représentent 40% de la Bourse de Paris, tous ces gens-là reprennent le pouvoir. Ils ont la capacité, qu'ils exercent maintenant souvent, d'écarter un chef d'entreprise à qui on reproche, même s'il a eu des résultats technologiques et commerciaux brillants, de ne pas faire de profit suffisant. Parallèlement, nous savons bien que dans un pays comme la France, mais dans beaucoup d'autres, l'Allemagne étant un cas très voisin de celui de la France, la part des travailleurs, la part du travail, a fortement reculé dans la répartition du produit national à l'avantage produits du capital. Finalement, est-il besoin de rappeler que notre vie politique et sociale ne s'organise plus autour de catégories définies par leur place dans les rapports sociaux de production ? Nous avons longtemps accepté l'idée que la droite représentait plutôt les capitalistes, les entrepreneurs ou les cadres supérieurs et la gauche les salariés. Or aujourd'hui, non seulement la proportion des salariés n'a cessé d'augmenter, ce qui devrait assurer presque automatiquement la victoire de la gauche, ce qui n'est pas toujours le cas, mais encore les ouvriers et les chefs d'entreprise ne représentent ensemble qu'une minorité décroissante de la population active. Où faut-il placer les cadres et même les cadres supérieurs ? On s'aperçoit en France que les cadres moyens et supérieurs sont la catégorie qui vote le plus pour le Parti socialiste, ce qui est plutôt surprenant par rapport à une définition ancienne. Quelle est la place des petits entrepreneurs de type traditionnel ou au contraire celle des nouveaux entrepreneurs, ceux qui lancent les start-up ? Toutes ces questions n'obtiennent pas facilement une réponse de type politique. Au point même que nous doutons que nos systèmes politiques méritent encore d'être appelés représentatifs. En réalité, partout, les liens entre demande sociale organisée et représentation politique se défont, semblent même parfois disparaître, et les mots de droite et gauche, ou leurs variantes, ne correspondent souvent plus à des oppositions perceptibles par l'opinion publique. Nous le savons particulièrement bien en Europe, où plusieurs pays ont accepté l'idée lancée par Tony Blair en Grande-Bretagne de « third way », c'est-à-dire d'une troisième voie qui n'est ni le libéralisme extrême, ni l'ancienne social-démocratie. Le chancelier Schröder en Allemagne n'a-t-il pas parlé lui-même d'un nouveau centre ? C'est-à-dire, ne s'est-il pas exprimé sans aucune référence à des catégories et à des oppositions sociales ? Plus concrètement, qui d'entre nous voit des différences majeures entre la politique de Tony Blair en Grande-Bretagne et celle de M. Aznar en Espagne ? Je crois que l'un est de droite, l'autre de gauche. Les affrontements sociaux sont moins visibles qu'autrefois. Nous sommes tous plus tentés d'opposer le comportement des secteurs protégés et des secteurs ouverts à la connaissance, ou des secteurs modernes et des secteurs traditionnels, plutôt que des catégories définies en termes proprement sociaux, c'est-à-dire de classe sociale. J'en ai assez dit pour pouvoir donner maintenant une interprétation générale de ce recul du travail dont je viens d'évoquer un certain nombre d'aspects, interprétation qui s'éloigne beaucoup de l'idée que le loisir et la consommation l'emportent de plus en plus sur le travail. Il faut ici prendre un peu de distance pour construire une analyse. Nos sociétés peuvent toujours être définies de deux manières différentes, qu'on pourrait appeler synchronique et diachronique. C'est tout simplement que d'un côté, chaque société appartient à un type sociétal, à un type général de société. C'est ainsi qu'on parle de société industrielle ou de société marchande avant, et qu'aujourd'hui nous avons pris l'habitude de parler de société d'information, un peu moins souvent de communication. Ceci indique des rapports sociaux des enjeux des conflits, des acteurs des conflits, et aussi toute une construction de la vie sociale, du temps, de l'espace, etc. Ce que nous retrouvons quand nous parlons aujourd'hui, par exemple avec Manuel Castells, en un livre remarquable, de société de l'information. L'autre manière que nous avons de comprendre nos sociétés, c'est de les comprendre dans le temps, c'est-à-dire non pas par ce qu'elles sont, mais par leur manière de se transformer. Au lieu de parler de société industrielle, on parle alors d'industrialisation ou de post-industrialisation. Et c'est ici que nous rencontrons des mots bien courants pour définir la manière, c'est-à-dire la direction sous laquelle s'opère cette transformation historique. Si je dis capitalisme, socialisme, dépendance, décolonisation, j'emploie des mots qui se réfèrent non pas à un type de société, mais à un mode de transformation historique. Il est tout à fait essentiel de ne pas confondre ces deux catégories de notions. Société industrielle et société capitaliste ne sont ni des expressions synonymes, ni des expressions opposées. Elles sont différentes. Dans la mesure où parler de société industrielle est une manière de définir un type de société, tandis qu'une société capitaliste, cela décrit un type de transformation d'entrée dans la société industrielle ou dans la société post-industrielle. Ce qui me conduit à l'hypothèse suivante. Au cours du dernier quart de siècle, nos sociétés se sont de moins en moins définies comme des types sociétaux, ou si vous préférez, comme des modes de production ou des systèmes d'action historique, pour me référer à divers auteurs, et de plus en plus par leur mode de modernisation, c'est-à-dire par ce que nous appelons globalisation, c'est-à-dire ouverture mondiale du commerce et extension planétaire des ensembles de production. Cette nouvelle phase de développement, voilà un mot qui avait disparu de nos vocabulaires et qui est revenu en force. Ce mode de développement que nous vivons en ce moment peut être appelé, sans aucun esprit polémique, un mode de développement entièrement, presque entièrement capitaliste, c'est-à-dire où le changement économique et social est dirigé moins par un État national ou supranational que par des agents privés ou semi-privés d'action économique. Or, lorsque nous parlons du travail, nous nous référons à un type sociétal de production. Lorsque nous parlons de marché, au contraire, nous nous référons non plus à un tel type de société, mais à un mode de modernisation, de transformation historique. Je dois donc conclure cette première phase de mon exposé en disant que, au lieu que nous soyons passés d'une société de travail à une société de non-travail, nous sommes passés d'une société centrée sur elle-même, sur sa production et son organisation, à une vision dynamique, historique, plus que proprement sociologique. C'est ce que nous entendons en disant que nous sommes passés d'une société de production à une société de marché. Ce qui ne veut dire d'aucune manière que nous soyons entrés dans une période indéfinie, peut-être même définitive, où c'est le marché et donc la gestion du changement qui constitue l'essentiel de notre société. Au contraire, j'indiquerai dans un moment que dès maintenant, nous pouvons voir, selon moi, réapparaître une société de production et par conséquent la notion de travail recevoir à nouveau une importance centrale alors qu'elle a été, comme je vous l'ai rappelé, déplacée du centre de nos préoccupations par le thème de la globalisation qui comprend celui de la réallocation des ressources et par conséquent celui de la crise de l'emploi dans beaucoup de parties du monde. C'est aussi d'ailleurs à ce thème général de la globalisation qu'il faut rattacher ces grands phénomènes qui remplissent notre esprit et nos préoccupations, c'est-à-dire l'augmentation des inégalités et l'augmentation de l'exclusion sociale dans pratiquement tous les pays, qu'ils soient riches ou pauvres. Ce que nous appelons d'ailleurs dans notre type de pays le quart-monde. à cette hypothèse que j'ai faite, l'hypothèse générale, nous sommes passés d'une société de production à une société de marché, je viens d'ajouter une deuxième hypothèse, je crois que nous revenons à une société de production. Alors, il faut quand même que je reprenne cette seconde hypothèse pour essayer de la justifier. Je crois que notre perception à tous de la vie économique et sociale se satisfait de moins en moins d'une analyse ou d'une présentation faite en termes de commerce international. Nous donnons à nouveau à la technologie, à l'organisation de la production et par conséquent au travail, une importance de plus en plus grande. Je pourrais dire que nous sortons d'une transition libérale ou capitaliste, d'un type de société à un autre, et que nous définissons de plus en plus par le type de société dans lequel nous sommes en fait déjà entrés, la société de l'information. Prenons une comparaison. Au début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne, puis aussi en Belgique ou dans le nord de la France, nous avons vécu ce qu'on a appelé une révolution industrielle. En réalité, c'était plutôt une révolution capitaliste. Il n'y avait pas de transformation technologique fondamentale. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle, en commençant par l'industrie chimique allemande, nous avons vu la technologie, l'électricité, etc., occuper une place de plus en plus importante et aussi l'organisation du travail telle qu'elle a été d'abord définie par Taylor. Et dans cette période-là, on a vu les entreprises, les syndicats, les débats autour de lois sociales ou l'apparition de conventions collectives prendre une importance si grande que nous avons pris l'habitude de nous définir nous-mêmes comme une société industrielle. Aujourd'hui, de la même manière, de manière de plus en plus explicite et rapide, nous parlons de notre propre société à nouveau en termes de production. Il y a 5 ans, nous ne parlions que de globalisation. Je ne dis pas qu'on n'en parle plus, mais nous ne parlions que de globalisation et de mondialisation, voire même de triomphe des échanges financiers sur les échanges économiques. Or, aujourd'hui, nous parlons par-dessus tout de nouvelle économie. Et nous sommes maintenant convaincus qu'il s'agit de tout autre chose que de la spéculation boursière qui a fait monter vertigineusement le Nasdaq ou le deuxième marché à Paris et qui leur a ensuite infligé de brutales corrections. Cette nouvelle économie, qui n'est pas seulement liée aux industries de l'information et de la communication, qui représentent 8% de l'activité aux États-Unis, 4% en France, car elle se définit aussi par les effets sur l'ensemble de l'économie des nouvelles techniques d'information et de communication, correspond maintenant, dans un pays comme les États-Unis, à plus de la moitié des postes de travail créés depuis 10 ans, c'est-à-dire à des millions et des millions de postes de travail. Prenons des exemples bien différents. Dans de petits pays, l'impact de la nouvelle économie est encore plus spectaculaire. L'Irlande, dont le produit par tête était inférieur de plus d'un tiers à celui de la Grande-Bretagne qui est à côté d'elle, a aujourd'hui le même revenu par tête que la Grande-Bretagne et donc la moyenne des pays européens. On a un cas particulièrement intéressant, celui d'Israël. Il s'est construit en Israël, en l'espace de quelques années, une bande côtière qui va de Tel Aviv jusque vers Haïfa, qui est entièrement composée, c'est une sorte de Silicon Valley, si vous voulez, entièrement occupée par de nouvelles technologies, ce qui, entre parenthèses, peut expliquer la facilité relative avec laquelle Israël peut discuter de son territoire, vu que sa richesse dépend de moins en moins de ses kilomètres carrés et de plus en plus de la vitalité de sa propre Silicon Valley. Il est probable que dans peu d'années, au moins dans ce domaine-là, l'Europe occidentale aura rattrapé son retard sur les États-Unis. Alors nous serons, dans 5 ans, dans 10 ans, massivement entrés dans l'économie de l'information. Des ordinateurs aux téléphones portables, à tous les multimédias et surtout à l'échange sur Internet, nous voyons bourgeonner de manière accélérée tout un ensemble d'activités économiques dont nous n'imaginions pas, il y a 10 ans encore, l'importance. Le livre que j'ai évoqué en passant de Manuel Castells sur ce qu'il a, en trois volumes, mais le premier volume porte sur la société en réseau. Manuel Castells, qui est né en Espagne, qui est professeur à Berkeley et qui a passé 17 ans avec nous à Paris, a voulu montrer comment, dans toutes les parties du monde, de nouvelles conceptions du temps et de l'espace, de la vie urbaine et de l'organisation du travail sont caractéristiques de cette nouvelle société de l'information. On peut même dire avec lui que pour la première fois, la technologie est un point de départ presque absolu dans notre société. Quand nous parlions de l'organisation du travail dans des sociétés plus traditionnelles, nous savions bien que l'organisation familiale, la gestion politique et sociale, les croyances religieuses se mêlaient de manière indissociable avec l'activité professionnelle. Encore dans la société industrielle, nous savons bien que organisation technique du travail et organisation sociale du travail étaient indispensables. C'est d'ailleurs à ces sujets-là que j'ai consacré mes premiers travaux à la fin du Moyen-Âge. La plus grande partie de la rationalisation qui s'est réalisée au XIXe siècle a consisté à donner une emprise croissante à l'organisation du travail, c'est-à-dire au management, sur les ouvriers, les producteurs directs. Au contraire, aujourd'hui, les nouvelles techniques d'information et de communication entraînent par elles-mêmes des conséquences qui ne peuvent être attribuées ni à un mode d'organisation sociale, ni à un mode de gestion politique, ni encore moins à des croyances religieuses. Cela ne veut absolument pas dire que toutes les formes de notre vie sociale sont déterminées par ces technologies. Mais ce qui est bien différent, que ces technologies ne sont pas déterminées de manière décisive par d'autres aspects de la vie sociale. Nous nous sommes aperçus assez récemment que la supériorité conquise par les États-Unis depuis 10 ans était due avant tout à la capacité de créer, diffuser et utiliser ces nouvelles technologies. Encore pendant les années 70, on parlait du déclin des États-Unis et on aimait opposer les États-Unis vieillissants au triomphe d'un Japon inventeur d'une nouvelle conception de la grande entreprise. Au cours de la dernière décennie, vous le savez, la situation s'est brutalement renversée. Les États-Unis ont acquis une avance considérable sur l'Europe au moment même où le Japon entrait dans une longue crise, non encore terminée, et dont l'origine fut l'éclatement d'une grosse bulle financière entretenue et augmentée de manière irresponsable par le système bancaire de ce pays. Aujourd'hui, alors que quelques années plus tôt, nous ne parlions que de finances internationales, nous découvrons que le succès américain est dû à plus de causes internes que de causes externes, bien qu'il n'y ait aucune raison de nier l'importance du déficit commercial et de l'arrivée de capitaux extérieurs aux États-Unis attirés par des taux d'intérêt plus élevés que ceux de l'Europe. Nous avons tous entendu parler, je l'ai mentionné moi-même, de Silicon Valley, mais jusqu'à une date assez récente, nous avions le sentiment qu'il s'agissait là d'un lieu exceptionnel, de prouesse technique, qui n'affectait que très partiellement l'ensemble de la vie économique. C'est aujourd'hui impossible de défendre une telle vision des choses. Et surtout, nous savons par de nombreuses études à quel point le triomphe américain n'a pas été dû uniquement à des innovations techniques, mais plutôt à la capacité de lier des innovations techniques à des recherches scientifiques d'un côté et à une transformation, d'ailleurs souvent brutale, des méthodes de gestion des entreprises de l'autre. On pourrait ajouter que nous sommes passés, ou plutôt que les États-Unis sont passés avant nous, d'une certaine représentation du monde à une autre, d'une image déterministe, planificatrice, stable du monde, à ce que Edgar Morin et Henri Atlan ont appelé la complexité, c'est-à-dire un réseau de facteurs aux mouvements et aux indépendances, souvent imprévisibles, de sorte qu'il est devenu plus important de savoir s'adapter à des situations imprévues que de construire des plans qui suppose une fixité d'un environnement sur laquelle, en fait, on ne peut plus compter. Parler de nouvelle économie au lieu de parler de mondialisation c'est redonner la priorité aux facteurs proprement économiques et aussi sociaux du développement, plutôt qu'à des conjonctures économiques internationales. C'est donc redonner une importance centrale au travail. Un thème qui prend une importance croissante est celui de la liaison de la production et de la formation ou de l'éducation. Vous interrogez n'importe quel économiste n'importe où dans le monde. Il vous répond tout de suite que le facteur de croissance le plus important est l'éducation. J'ajoute, sur un plan beaucoup plus général, que la pensée économique est amenée assez naturellement à penser que plus une économie est, comme on dit, avancée, et plus sont divers les facteurs qui concourent à sa réussite ou à son échec. Vous commencez à lancer une économie moderne, qu'est-ce qu'il vous faut ? Du capital et du travail. Et vous pouvez faire des taux de croissance énormes, comme on l'a vu par exemple dans beaucoup de pays asiatiques. Ensuite, quand votre économie se développe, vous avez besoin de mobiliser des tas de facteurs. Il vous faut de l'éducation, il vous faut des routes, il vous faut des téléphones, il faut une économie, une administration publique efficace et non corrompue. Il vous faut des tas de choses. C'est ce que les économistes ont appelé la croissance auto-entretenue, self-fulfilling growth. Et maintenant, tous nos économistes et sociologues nous disent attention, le succès de notre économie dépend maintenant d'un autre ordre de facteurs, dont vous entendez parler maintenant tous les jours, qui est que nous sommes dans une société de risque. L'expression a été lancée par un sociologue allemand, Ulrich Beck, il y a une vingtaine d'années. Et donc, nous devons employer des méthodes de précaution. Autrement dit, notre société ne dépend plus seulement de sa capacité de croître, elle dépend de sa capacité à éviter des catastrophes. Catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, épidémies devenant pandémies, ou aussi à éviter l'écroulement de sociétés détruites par des luttes internes, luttes ethniques, luttes religieuses, d'un type ou d'un autre. Et par conséquent, nous avons une image de notre société comme de plus en plus fragile. Donc, nous n'avons aucune raison, et personne ne demande, à ce qu'on subordonne tous les aspects de la production, de l'éducation à la littérature, à des buts de production. Bien sûr que non. Mais nous devons être capables d'établir des correspondances entre tous les aspects de notre vie collective et individuelle, de manière à ce que notre activité de production s'enrichisse de tous les aspects de notre culture et de notre vie sociale, ce qui n'a d'ailleurs pas que des éléments positifs, parce que nous sentons bien que les problèmes de la production et du travail pèsent de plus en plus directement sur notre vie personnelle et collective. Je poserais même la question, sommes-nous si sûrs qu'on travaille moins aujourd'hui avec les 35 heures qu'il y a 20 ou 30 ans ? Je n'en suis pas sûr du tout. Parce que, non seulement pendant longtemps, la productivité du travail avait augmenté 2 à 3% dans le domaine industriel, maintenant c'est parfois plus dans d'autres domaines, sans que la durée du travail baisse de manière très significative pendant une assez longue période. Mais surtout, ce que nous voyons, c'est qu'en même temps qu'on discute les 35 heures, et vous l'avez vu tous les jours, selon l'expression habituelle, on remet à plat la vie de l'entreprise, c'est-à-dire que l'on essaye de boucher les trous, d'occuper de mieux en mieux le temps disponible, et en général, les syndicats négocient la flexibilité interne du travail, non pas la mise au chômage, mais la flexibilité interne, c'est-à-dire la flexibilité des horaires selon les saisons, selon les jours, et même, par exemple, en acceptant du travail de nuit ou du travail de jour férié beaucoup plus fréquemment qu'avant. Et surtout, je dirais que plus notre activité est technologiquement avancée, plus elle est dense. Alors que George Freeman, créateur de la sociologie du travail, avait parlé pour les sociétés agraires anciennes d'un travail pour eux, c'est-à-dire où il y a des moments de non-travail, où on se fume une pipe, où on échange des propos avec ses voisins. Maintenant, notre travail est dense. Les opérations s'enchaînent d'une manière qui laisse de moins en moins flotter ou s'égarer l'attention. Qu'il s'agisse d'opérations simples mais fatigantes, comme la lecture sur écran, ou au contraire l'élaboration de programmes et la gestion des flux financiers, l'activité qui nous est demandée est plus mobilisatrice en attention, en analyse et en réflexion que la plupart, pas toutes, des activités précédentes. Ajoutons que la rapidité des changements technologiques est si grande que la plupart d'entre nous devons consacrer un temps important à un recyclage plus ou moins permanent, à utiliser un nouveau type d'ordinateur, à surfer sur Internet ou à recourir à d'autres technologies. On peut dire que nos heures de travail tendent à être de plus en plus actives. En tout cas, rien ne justifie, parce que la durée légale du travail a enfin diminué, de dire que nous sommes entrés d'un coup et de manière irréversible dans une société qui nous délivrerait peu à peu du travail ou qui lui attache de moins en moins d'importance. Je voudrais ici ajouter une remarque. Il serait quand même tout à fait étonnant que nos sociétés, tellement marquées par des technologies avancées, fonctionnent avec des gens qui sont tous des gens non qualifiés. Il est bien évident que la proportion des gens qualifiés et hautement qualifiés ne cesse d'augmenter et que donc la signification du travail, j'y reviendrai, se transforme en un sens positif. Prenons une ou deux images. Il y a un quart de siècle, ou 30 ans comme vous voulez, dans un pays comme la France, ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés, ou comme on dit OS, étaient des catégories de la même importance. Aujourd'hui en France, il y a deux fois plus d'ouvriers qualifiés que d'ouvriers non qualifiés. La catégorie des cadres, notion spécifiquement française et assez vague, la catégorie des cadres est aujourd'hui analogue en taille à celle des employés et à celle des ouvriers. Vous voyez donc qu'il y a, comme d'autres l'ont dit à propos du niveau général d'éducation, il y a un niveau qui monte, sans quoi, je le répète, on comprendrait difficilement qu'une médecine complète, une technologie complexe, que la gestion des nouvelles techniques de multimédia soit réalisée par des gens analphabètes. À partir de ces observations que je peux appeler objectives, je veux maintenant entrer dans le monde des représentations, c'est-à-dire de la signification subjective du travail. Faut-il dire que le travail a moins ou plus d'importance dans notre expérience personnelle qu'autrefois ? Ici encore, un tel jugement est inadapté parce que la réalité est d'une nature différente. Le changement observé est de nature plus qualitative que quantitative. Il nous est facile de nous remettre en tête la conception qu'on peut appeler traditionnelle du travail, mais qui est très loin d'avoir disparu. Le travail a été défini comme le lien principal de l'individu et de la société, de même que la famille ou l'école étaient des liens entre les générations. Quand nous disions « travail », nous parlions à la fois de devoir et de droit, de connaissance et d'utilité. C'est donc presque toujours en termes directement sociaux que nous nous exprimions. Et c'est pourquoi si souvent les thèmes du travail ont été traités en termes politiques, en particulier lorsqu'on a parlé de dictature du prolétariat, de république des travailleurs, ou encore de démocratie industrielle ou de social-démocratie. La question sociale, comme on disait au XIXe siècle, c'était la question ouvrière. Il est indiscutable que de telles expressions, de telles représentations ont perdu beaucoup de terrain. Et ce que nous vivons depuis un demi-siècle, c'est le remplacement de cette représentation du travail par un autre. Pourquoi ? Ici encore, il faut prendre un peu de distance pour l'analyse. Parce que le fait probablement le plus central de notre évolution récente, quand je dis récente, je veux dire au cours des 3 ou 4 derniers siècles, c'est la séparation croissante d'une logique économique, et qui est surtout une logique de marché, des logiques de profit, de rationalité, d'échange, qui sont impersonnelles, qui sont objectives. Et de l'autre côté, nous avons vu se développer des représentations de nous-mêmes, de notre identité, en des termes qui ne sont plus des termes économiques, et encore moins des termes de travail. Nous pouvons remonter très loin, de Descartes à Kant, pour trouver les origines philosophiques de la naissance de cet individualisme philosophique. Partout dans le monde, sous les formes les plus diverses, on voit se développer ces politiques de l'identité, appuyées quelquefois sur la nation ou sur l'ethnie, dans d'autres cas sur la religion, ou encore sur le sexe, l'âge, ou des modes de vie. Séparation de deux mondes, le monde objectif, le monde subjectif. Et dans la mesure où cette séparation s'approfondit, les définitions de nous-mêmes, de soi-même, comme travailleurs ou comme possédant un métier ou une profession, toutes ces catégories liées au travail, ou comme le disaient les sociologues, à l'action réalisée, à l'achievement, semblent perdre de l'importance en face du retour de ce que les mêmes sociologues appelaient les situations héritées, ascribed, comme le sexe, la langue, la nation, le groupe social d'origine. Il semble donc, à ce niveau-là, que la thèse de la fin du travail trouve enfin sa justification. Car si nous nous définissons d'un côté de manière objective par notre participation au monde de la technologie et du marché, et si nous nous définissons d'une manière entièrement différente au niveau de notre expérience personnelle, par exemple en termes d'origine ou de goûts et de projets, il est clair que ce domaine de l'expérience et celui de l'organisation économique n'ont plus rien en commun. Nous sommes d'un côté des participants au marché par notre production, de l'autre des consommateurs ou des communicateurs, mais ce qui caractériserait notre société serait plus la rupture de ces deux phases de notre expérience individuelle et collective, plutôt que l'importance croissante de l'une ou de l'autre. Mais c'est ici que j'opère une opération analogue à celle que j'ai opérée tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer pourquoi je pense qu'une telle séparation complète des deux moitiés de notre expérience, l'objective et la subjective, est invivable, et le rôle que joue forcément le travail dans leur combinaison. Car cette séparation, et par conséquent l'idée même d'un déclin du travail et de la représentation de nous-mêmes comme producteurs et travailleurs, nous mène à des catastrophes. Si nous imaginons un monde purement économique, dominé par les lois du marché, à ce moment-là, l'économie n'a plus rien à faire avec le reste de la société. C'est le triomphe du plus fort. C'est le triomphe même pas de l'économie, mais plutôt de la finance. De l'autre côté, si nous imaginons une domination des demandes identitaires, de l'identité culturelle, nous allons créer, nous sommes en train de créer des sociétés, des communautés, comme on dit parfois, qui n'ont qu'une obsession, qui est d'être pur, propre, homogène. Cette fameuse politique que nous avons vue se développer si clairement depuis la Bosnie, mais aussi au Rwanda, ou hélas dans bien, bien des parties du monde. Par conséquent, des deux côtés, il y a catastrophe. La séparation du monde de l'économie et du monde des cultures aboutit à une double catastrophe. Il n'est donc pas artificiel de souligner le rôle important du travail et de la production dans notre possibilité de survivre comme société, c'est-à-dire aussi comme des individus qui préservent ou créent une certaine intégration de leurs rôles économiques et de leurs projets ou de leurs identités culturelles. La plupart d'entre nous avons une conscience croissante des dangers que je viens d'évoquer, mais comment pouvons-nous établir un pont et même créer une certaine intégration entre ces deux moitiés de notre univers et de notre expérience? Je crois qu'il existe deux moyens de lier l'un avec l'autre de ces continents qui dérivent loin de l'autre. Le premier, c'est l'appel au travail, retrouvant sa priorité dans l'ensemble des mécanismes économiques et surtout des marchés. Je veux dire par là, le travail retrouvant de l'autonomie, comme disons la professionnalisation de l'autonomie à beaucoup de gens face, je dis bien face, à leur entreprise. Cet appel au travail recentre sur chacun de nous et sur notre collectivité le sens de la vie économique et non plus dans un réseau ou un système d'échange. Parallèlement, nous pouvons nous reconstruire dans notre unité par l'appel à des croyances, je dirais même, pourquoi pas, des fois, à condition, et là nous en avons une grande expérience dans un pays comme la France, à condition qu'on sépare la foi et la croyance de ce qui fait une communauté, c'est-à-dire de son lien avec une loi, avec des coutumes ou avec des rites, ce que nous avons pris l'habitude en France d'appeler, en un sens qui n'est pas du tout agressif, la laïcisation. L'importance du travail aujourd'hui vient donc beaucoup moins de ce que le travail est nécessaire pour que la société et les individus survivent, et elle est de moins en moins liée à une conception rédemptrice du travail ou à une image du travail comme malédiction. Le travail redevient important, de plus en plus important, parce que travail et croyance ou projet nous apparaissent, individuels ou collectifs, nous apparaissent comme des éléments fondamentaux de notre propre identité, de notre construction de nous-mêmes, puisque celle-ci se définit avant tout par la capacité de lier ensemble une activité instrumentale technique et des croyances ou des projets culturels. Disons-le dans un autre vocabulaire, le travail a une importance essentielle pour la grande majorité d'entre nous dans la mesure où il nous donne à la fois l'estime de nous-mêmes et l'estime des autres. Le travail est ce par quoi nous nous reconnaissons mutuellement, non pas seulement comme appartenant au même système de division du travail, mais comme nous efforçons tous de construire en même temps qu'un rôle professionnel une identité dynamique, capable d'unir l'activité instrumentale et des orientations culturelles. Les observations les plus courantes ont d'ailleurs toujours rappelé combien la perte du travail a des aspects désorganisateurs sur la personnalité, au point qu'on a pu parler d'un choc de désocialisation ou même d'un destin de passivité et de perte d'initiative. Nous retrouvons donc l'importance du travail, non plus comme devoir, ou même comme force de changement historique, mais comme instrument de progrès ou de malheur des hommes, comme on l'a fait si longtemps, nous découvrons le travail, ou nous redécouvrons l'importance du travail, par notre conscience que c'est dans le travail, et tout autant dans l'élaboration de projets personnels et collectifs, que nous créons une identité qui n'est plus ni communautaire, ni marchande, qui permet donc la communication entre des expériences différentes, mais qui ont toutes en commun cette tentative de mettre ensemble une activité instrumentale et des orientations culturelles. Je dois donc conclure, ou je peux conclure, je crois, en disant ceci. Que nous sommes loin de l'idée de fin du travail et des images édulcorées d'une société d'autosuffisance, de loisirs et de plaisirs. Vision d'ailleurs que je trouve si choquante quand nous regardons autour de nous le malheur de ceux qui n'ont pas de travail et de ceux qui exercent une activité dans des conditions épuisantes et pour un revenu dérisoire. Mais il ne s'agit pas davantage pour nous d'accepter de ne plus être définis que par les échanges économiques et financiers internationaux. La conclusion que je vous soumets je peux l'exprimer en termes historiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, pendant 20 ou 30 ans selon les pays, nous avons tous parlé de production, quelquefois de planification, toujours de construction ou de reconstruction économique. Nous avons eu alors une vision à la fois globale et étatique, si je puis dire, disons volontariste de notre société. Ensuite, pendant le dernier quart de siècle qui vient de s'écouler, nous avons vu cette représentation disparaître. Toutes les politiques de la production et du développement ont été balayées à la fois par des crises internes, le ralentissement de la croissance et des interventions extérieures, surtout financières. Et maintenant, nous sommes entrés, je crois, dans une troisième période. Nous ne vivons plus un projet global de développement, comme on disait alors, mais nous n'acceptons plus ce que nous avons cru ou souhaitable ou inévitable, à savoir de devenir une société de marché. Non pas seulement parce qu'une telle solution nous semble menaçante, mais parce qu'elle ne correspond simplement pas à la réalité observable. Partout, nous voyons que l'économie n'est pas séparable des conditions d'organisation sociale et politique, de la culture et de l'éducation, et évidemment des décisions prises par les pouvoirs publics. Nous sommes aussi éloignés des décennies récentes que de celles qui les ont précédées au lendemain de la guerre. Nous avons une vision plus individualiste de nous-mêmes, nous pensons à notre histoire de vie, nous essayons de nous constituer ou de protéger une identité, c'est-à-dire une continuité et une image de nous-mêmes, tout en traversant des circonstances de plus en plus diverses et qui nous menacent constamment de discontinuité. Notre objectif principal est donc de nous constituer comme les sujets de notre propre histoire, et évidemment en reconnaissant ce même droit à tout un chacun. Il s'agit pour nous de retrouver ou de trouver une certaine autonomie, une certaine capacité d'action sur nous-mêmes et sur notre environnement, la capacité d'être des acteurs sociaux. Cela nous oblige à nous opposer d'un côté à la domination du marché et de l'autre à celle des communautarismes, en faisant appel, je le répète, à deux principes positifs. Le premier est de nous définir comme des êtres de travail, c'est-à-dire qui participent directement, activement, à l'ensemble de la vie économique, et le second, de nous affirmer comme des êtres de projet et de conviction. C'est la conjonction de ces deux aspects de notre expérience qui peut nous rendre capables, dans la société où nous sommes, de lutter ou d'agir pour améliorer nos conditions de vie, pour diminuer le niveau d'égalité dans notre société et pour augmenter notre capacité de faire vivre ensemble des individus et des groupes différents. Le travail est un besoin et un moyen de liberté et de responsabilité. Ceci n'enlève rien au fait que la situation de travail se définit souvent par l'absence de liberté et de responsabilité et par les manques et les souffrances endurées. Mais plus nous nous plaçons dans la perspective qui est celle de nos sociétés actuelles, et plus chacun d'entre nous demande au travail ce qu'on peut appeler une réalisation de soi-même, ce qui n'exclut ni les échecs, ni les dominations subies, mais ce qui indique que le travail, beaucoup plus qu'il n'est la base, l'infrastructure d'une société, est devenu aujourd'hui un des fondements principaux de la capacité de chacun d'entre nous d'être l'acteur de sa propre vie. Je vous remercie.